Bienvenue à IMFC 98.5 avec Jérémy Filosa et Arcadio Marcuzzi.
Salut tout le monde et bienvenue à IMFC 985. Mon nom c'est Jérémy Filosa en compagnie de mon co-animateur Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio.
Salut Philo.
Arcadio, on arrive à la fin de la saison. On va quand même revenir sur le match du week-end dernier à Toronto. On a un gros match cette fin de semaine. Ce seront les adieux de Patrice Bernier. On va parler aussi de quelques nouvelles d'actualité dans la MLS. Entre autres, le Crew de Columbus qui pourrait déménager. On est allé souvent à Columbus couvrir des matchs. On va un peu essayer d'expliquer quelle est la situation là-bas, mais aussi est-ce que le Crew devrait demeurer là-bas ou déménager, bien sûr. Donc, quelques sujets MLS pour conclure l'émission. Commençons par le match de dimanche à Toronto. Ça n'a pas été un mauvais match de l'Impact. Écoute, je me souviens pas de la dernière fois où on avait dit l'Impact aurait mérité mieux, mais l'Impact aurait mérité mieux. On a manqué plein d'opportunités. On en a compté 5 seulement pour Matteo Mancosu. Victor Cabrera a touché les 2 poteaux. Il y a eu plusieurs opportunités de coup franc que malheureusement, on n'a pas converti. On n'est même pas passé proche de convertir. Mais est-ce que là-dedans, tu as reconnu une équipe de l'Impact rafraîchie par la pause ou est-ce que le Toronto FC a pris l'Impact à la légère? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, écoute, j'ai eu le temps de... Parce que c'est vrai qu'on a eu du plaisir à décrire ce match-là.
Oui.
C'était... je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas au cours des derniers mois. Il y a des matchs qui ont été très difficiles à suivre pour tout le monde, là, autant pour les partisans que pour nous. Mais j'ai parlé avec beaucoup de gens depuis dimanche, discuté par rapport au match. Et du côté des partisans, et certains qui étaient là sur place d'ailleurs, qui se sont fait un peu mouiller et qui ont eu froid un peu, ils ont pas trouvé ça génial comme spectacle. Il y avait 2 équipes pour qui l'enjeu n'était pas nécessairement là, au-delà du bon de ce qu'on essaie de gonfler là, comme un classico, comme un derby.
Ouais.
Je pense que Toronto, oui, a peut-être pris l'Impact un peu à la légère, mais ce qui manquait vraiment, c'était un enjeu commun pour les 2 équipes. Et ça s'est répercuté dans le spectacle, je pense que les 2 équipes ont donné. Mais ceci dit, c'est vrai que l'Impact aurait pu mériter mieux, peut-être plus par dépit du Toronto FC que par mérite propre, mais quand même, écoute, dans les circonstances d'aller à Toronto et passer aussi près d'accrocher au moins un point, je pense que ça reste quand même encourageant là dans le contexte global aussi négatif des dernières semaines, mais je pense que c'est surtout que dans le système actuel en MLS, les fins de saison, parfois, lorsqu'il n'y a plus d'enjeux pour une équipe ou pour une autre, ça peut donner des matchs un petit peu ternes, si on veut.
Bon, parlons un petit peu de la situation de Matteo manque son coup, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler à partir de maintenant.
C'est excellent.
Matteo manque son coup qui, hier, cette semaine, en a manqué. Moi, j'ai compté 5.
5, là, minimum. 5, au minimum,
5 bonnes chances de marquer. La question qu'on se pose, à 720 000 $ par année, est-ce qu'on peut prendre une chance et dire on ramène Matteo parce que ça n'a juste pas été une bonne année, il a été blessé 2 fois, peut-être qu'il a été un peu malchanceux ou quoi que ce soit. C'est sûr que s'il gagnait moins cher, on se dirait, bon, on va lui donner une autre chance. Mais à 700 quelques mille, ça prend énormément de place sous le plafond salarial. Est-ce qu'on peut se permettre une autre saison avec seulement 5 ou 6 buts alors que les meilleurs attaquants de pointe de la Ligue en marquent une vingtaine approximativement? Et si la réponse c'est non, comment on va faire pour refiler Mancosu à quelqu'un d'autre à 700 quelques mille $? Même en Europe, ça va être extrêmement difficile. Qui va payer ça?
Ça va être difficile, oui, c'est certain. Écoute, peut-être qu'on peut faire un petit tour de passe-passe avec Bologne. Faudrait voir, là. Mais écoute, au-delà de qu'est-ce qu'on ferait avec Mancosu, si on avait un autre attaquant, je pense que oui, il faudrait aller chercher quelqu'un d'autre, là, et il faudrait mettre cet argent-là ailleurs. Je pense que s'il n'y avait pas Jackson qui poussait derrière et qui n'avait pas connu une belle année comme ça a été le cas, je te dirais qu'on va garder Mancosu et peut-être tenter d'aller chercher une solution moins chère ou peut-être au même prix là, pour venir complémenter un peu le manque de profondeur. Mais là, on a un jeune produit local qui coûte pas cher, qui pousse, qui vient de signer un nouveau contrat.
Ce que tu dis, c'est qu'il y en a un qui compense pour l'autre, fait que c'est moins pire.
C'est moins pire, mais en même temps, je veux dire, c'est l'argent de Mancosu, je la dépenserais ailleurs et j'irais chercher un autre joueur, un autre attaquant. Mais bon, écoute, je pense que l'impact, à moins qu'on ait déjà quelqu'un dans la mer et vraiment des pourparlers qui sont avancés, je pense pas que ça va arriver. Peut-être pas par voie internationale, ça peut peut-être arriver, peut-être qu'on peut faire un échange en MLS, un truc comme ça, mais encore une fois, c'est pas nécessairement dans les habitudes de l'Impact de Montréal. Ils l'ont fait un petit peu plus au cours des dernières années par rapport au début de l'ère MLS, là, mais écoute, moi je pense que l'année prochaine, on va faire confiance à Mancosu. C'est quelqu'un aussi que au sein du club, on aime bien, il s'entend bien, bon, avec Piatti, avec Gemali, une belle entente hors terrain. Il y avait eu quelques flashs de belle entente sur le terrain à la fin de la saison 2016. Malheureusement, en 2017, on a été loin du compte. Et écoute, je serais pas contre lui donner une deuxième chance, mais faudrait avoir un plan B. Faudrait avoir un plan B
pour le mois de juillet, là.
Rapide, peut-être même avant, là, si on peut bouger et s'en débarrasser, aller chercher quelqu'un d'autre. Faudrait avoir un plan B parce que si ça lève pas rapidement, je pense que ça serait annonciateur de bien de mauvaises choses pour l'Impact.
Tu te retrouverais dans la même situation l'année prochaine, puis tu veux pas faire ça, c'est certain. Mais c'est beaucoup d'argent, puis c'est comment tu fais pour te débarrasser de ce contrat-là, c'est ça la question. Il y a deux jeunes qui ont obtenu un départ. Commençons avec Maxime Crépeau. On en a parlé un peu brièvement avec l'entraîneur des gardiens après le match. Quand même un bon match, très respectable. Bon, Maxime attend toujours de pouvoir savourer sa première victoire MLS, mais en tout et partout, il a fait le travail. Il a donné à son équipe une chance de gagner ce match-là. Est-ce que selon toi, il sera devant la cage pour le dernier match?
Je crois pas. Moi non plus. Je pense que et c'est sans rien enlever à Maxime Crépeau, comme tu l'as dit, c'était pas un mauvais match du tout qu'il a fait. Je pense qu'on va y aller avec l'alignement qui risque de le plus possible, en tout cas, de commencer l'année prochaine. Là, c'est certain qu'on va mettre quand même quelques jeunes, mais aussi, écoute, on veut faire plaisir à Patrice Bernier, on veut faire plaisir aux partisans pour ce dernier match. Les partisans qui ont été là cette année, malgré une saison fort décevante, leur présence au stade de Saputo, pardon, a été très bonne. Le taux de présence, les achalandages ont été, selon moi, très bons en 2017, malgré une saison en dents de scie, là. Donc, je pense qu'il faut leur donner le meilleur 11 possible, la meilleure chance de gagner possible. Comme ça, on ferme la saison, du moins, sur une note positive. Et on peut dire au revoir à Capitaine Bernier d'une façon honorable. Lui qui aurait mérité, disons, une fin de carrière beaucoup plus heureuse en termes de performance sportive de son équipe.
On va en parler dans quelques instants de Patrice Bernier. Est-ce que Balou, Jean-Yves Tabla, en a suffisamment fait pour essayer de convaincre l'Impact de tenter de le garder ici? Ça n'a pas été très glorieux comme départ. Je te dirais que ça a été un des joueurs peut-être les plus effacés.
Invisible.
Dans le 11 partant. Tous les autres, on les a vus, on les a remarqués. Romero, Bernardello et compagnie. Balou, ça a été très difficile. Ceci dit, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué.
Ah, c'est sûr. Mais écoute, c'est décevant. C'est toute cette histoire avec Balou, moi, ça me brise le cœur parce que c'est un jeune qu'on aime bien. C'est pas un mauvais garçon. Il est très prometteur. C'est un très beau joueur de foot. Mais en même temps, tout ce qui est arrivé, c'est venu ternir quelques belles promesses, une belle relation aussi d'amour qui était en train de se bâtir entre le jeune prodige, le premier joyau là, tu sais, que produisait l'Académie de l'Impact, bon, avec d'autres clubs évidemment, mais qui sortait du club, qui on pouvait dire, ok, ce gars-là, on va être fier de lui, on va le regarder aller, il va sûrement aller jouer en Europe, peut-être qu'il va intégrer un jour l'équipe canadienne, on ne sait pas, mais même s'il va en Côte d'Ivoire, on va le suivre puis on va accepter sa décision. Et là, il y a eu comme un désenchantement là, tu sais, avec cette petite grève, le forcing. On sait évidemment qu'il a été mal conseillé, mais ça a mal passé. Je pense que ça a mal passé aussi au sein des joueurs. T'sais. Je pense que je dis pas qu'on n'aime pas Balou puis qu'on le renie là, du côté du vestiaire, mais sur le terrain, ça paraît. Sur le terrain, ça paraît. On joue moins pour lui. Au début, on voulait bien le faire paraître. On disait le jeune, on va le pousser, on va l'aider. Les vétérans le prenaient sous leurs ailes. Et je le vois plus, ça. C'est peut-être là, peut-être c'est moi qui le vois pas, mais je le vois beaucoup moins. Et je l'avais dit avant même la grève de Balou, il avait un petit problème d'attitude sur le terrain. Je trouvais qu'il était
à l'extérieur aussi.
Il était un petit peu trop arrogant sur le terrain quand les ballons n'arrivaient pas sur son pied. Il levait les bras. Il y avait des signes d'impatience clairs qu'il faisait à ses coéquipiers. Et je trouvais que c'était déplacé de la part d'un jeune, d'une recrue, d'un jeune de 18 ans. J'aurais aimé voir un petit peu plus d'humilité de ce côté-là, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Donc, ouais. Écoute, Balou, c'est vraiment une deuxième moitié de saison décevante à tous les niveaux, autant au niveau sportif qu'humain. Est-ce qu'il peut avoir une rédemption de ce côté-là? Je le souhaite. Écoute, il est jeune, il est jeune.
Ben oui.
N'oublions pas, ben ce gars-là n'a même pas 19 ans encore. Donc,
est-ce que moi, je pense qu'un gars comme Samuel Piette peut lui donner un coup de main. Samuel, un autre Québécois, ils se tiennent ensemble. Il a un petit peu plus de maturité que lui. Il peut peut-être le prendre par la main. Pis t'sais, parce que tu as raison qu'il y a des gars dans ce vestiaire-là qui sont plus vieux, qui en ont vu d'autres, qui se sont détachés de lui en voulant dire « Hey, le kid, là, t'sais, apprends à marcher avant d'apprendre à courir. » Il a perdu la confiance de certains de ses coéquipiers.
Oui, mais je pense aussi que ça fait partie un petit peu de... on vit dans une réalité parallèle là, du côté de Balou et du clan Balou. Son père qui pousse beaucoup pour qu'il aille en Europe, pour l'équipe nationale ivoirienne, ainsi de suite. Puis je pense qu'on se voit trop gros, trop vite. Là. Et ça, ben c'est mortel. C'est mortel pour tout jeune joueur qui se développe. Ça tue des carrières, cette espèce d'avarice-là de vouloir trop faire trop vite, de se voir trop gros. Et écoute, il n'est pas trop tard pour Balou. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il est pas trop. Je pense que du côté de l'Impact, on a quand même bien géré la situation. Il est là, il fait partie du groupe. Ne semble pas malheureux. Heureux outre mesure. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a moyen de ramener le bateau sur le bon chemin pour que Balou puisse continuer à jouer pour l'Impact de Montréal et prouver qu'est-ce qu'il est capable de faire, prouver sa valeur et éventuellement, pourquoi pas, qu'on le vende en Europe. Écoute, on serait ravis de le voir réaliser ce rêve-là. On serait tous très fiers, autant du côté du club ou qu'autant du côté des amateurs, de le voir concrétiser ce rêve-là. Là.
On attend toujours qu'il rencontre les médias. Ça s'est toujours pas fait là, depuis sa grève. Soit dit en passant, on a fait plusieurs demandes, mais bon, semble que c'est très compliqué. Bon, parlons de Patrice Bernier, dernier match en carrière. C'est triste de le voir partir. J'aurais bien aimé le voir jouer une saison de plus dans un rôle différent, le rôle qu'on était supposé lui donner cette année. Mais qui finalement, on n'a jamais pu lui donner parce que c'était le meilleur numéro 8 qu'on avait. Il y a personne d'autre qui pouvait le déloger de là. Mais écoute, tu sais, depuis quelques jours, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éloges sur Patrice Bernier et ces éloges-là sont toutes très méritées. Je m'imagine pas si Patrice Bernier avait joué au hockey pour le Canadien de Montréal ou quelque chose. L'humilité que ce gars-là a été capable d'amener à l'extérieur du terrain, sur le terrain, le fait qu'il a dû vivre avec des situations pas faciles, avec des entraîneurs qui n'ont pas cru en lui, même si on savait tous qu'il était un excellent joueur de soccer. Il y a eu des accrochages avec le club. Jamais il n'a pointé le doigt envers personne. Il travaille fort durant les entraînements. Il donne tout ce qu'il a à donner sur le terrain. Il est talentueux. Il dit jamais un mot de croche. Représente bien la ville, le club, les jeunes amateurs de soccer qui rêvent de jouer. Écoute, je dis, j'essaie d'y trouver un défaut là. Puis la seule chose que je dirais, c'est que peut-être que le fait qu'il a été trop gentil, ça y a peut-être nuit des fois.
Ouais.
Parce que s'il avait mis son pied à terre à un moment donné, peut-être que certaines choses se seraient réglées plus vite avec certains entraîneurs.
Peut-être, mais en même temps, c'est contre nature pour lui.
C'est pas dans son genre.
C'est l'humilité par-dessus tout, le travail. On ne baisse pas les bras devant l'adversité, on blâme pas les autres, on ne pointe pas personne du doigt, on se rabat sur soi-même et sur ce qu'on peut contrôler. C'est un peu ça, l'essence de ce qu'est Patrice Bernier et de cet exemple-là, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est l'exemple parfait aussi de l'athlète multisport qu'on tente de promouvoir là à travers les pour les jeunes sportifs qui veulent se développer, qui veulent peut-être être pro un jour, de ne pas se concentrer que sur un sport, de vraiment, surtout au début, là, d'en pratiquer plusieurs, de trouver ce qu'on aime et de développer nos aptitudes physiques différemment. Ça, Patrice Bernier aussi est un excellent exemple de ce côté-là. Et c'est certain que ça fait mal de le voir partir, surtout dans le contexte. J'écoute, les souvenirs avec Patrice Bernier, avec ce maillot-là, sont impérissables. Cette belle... cette image qui va toujours me rester de son but contre
Toronto
en série au Stade Saputo En 2015, ouais, quand il se tapait le blason avec la main.
Il y avait une passe aussi dans ce match-là, ouais. La passe sur le but de Drogba.
Son visage, c'est cette satisfaction là, c'est là quoi, tu sais, parce que on en a parlé justement au début, on essaie de mousser justement la rivalité Montréal-Toronto. C'est pas toujours évident, surtout quand dans le contexte MLS, ben un match comme celui de dimanche dernier, l'enjeu il est pas nécessairement là. Mais ce jour-là, on a atteint un sommet qui par la suite s'est répété là, lors des séries suivantes. Mais Patrice Bernier a vraiment personnifié, cristallisé ce que c'est cette rivalité Toronto-Montréal. Et ce qui est magnifique, et je le sais qu'on le vit comme un deuil, puis je l'ai dit dimanche dernier en ondes, c'est sûr que c'est un deuil de perdre le capitaine, de perdre le joueur sur le terrain. Mais il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Pour Patrice Bernier, pour ouais. L'impact de Montréal, pour les partisans dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour lui. Parce que Patrice Bernier, je l'ai dit, là, c'est un passionné de foot. C'est une tête de foot qu'on va gagner à connaître. C'est un leader hors pair, mais un leader tranquille. Et je pense que au cours des prochaines années, ben, la suite logique des choses va le pousser. Il va toujours rester près du terrain. Il va toujours rester près du terrain. Il est en train de faire ses licences de coach et éventuellement, ce gars-là, je pense qu'il pourrait amener beaucoup plus à l'impact sur les lignes de touche, là, que qu'est-ce qu'il a amené comme joueur. Et ça, c'est pas peu dire. C'est sûr que bon...
Ouais, c'est un gars extrêmement brillant.
Et je pense que, écoute, on est loin d'en avoir fini avec Patrice Bernier. Mais bon, chaque chose en son temps. On va vivre notre deuil. Ça commence dimanche, écoute, en espérant que ses coéquipiers lui donnent le au revoir qu'il mérite. Parce que je sais que les partisans seront là. Les partisans, ouais. Eux, seront là. Ceux qui n'ont pas été là souvent au cours des dernières semaines pour donner à Patrice Bernier le départ qu'il mérite, c'est ses coéquipiers. Et je pense qu'on est en droit d'espérer que beaucoup de ces gars-là fassent amende honorable dimanche.
Oui, puis que le stade soit plein, bien sûr, pour le saluer. Mais, tu sais, l'impact perd beaucoup plus qu'un joueur parce que on se contera pas d'histoire. Tu sais, dans la saison, il y a des controverses. Il y en a eu cette année avec l'impact. Mais c'est qui est-ce qu'on sortait en avant des médias quand il y avait des controverses? Patrice Bernier. Puis Patrice temporisait tout le temps, inquiétez-vous pas, c'est pas si grave que ça. Dans l'histoire Balou, souvenez-vous, on avait sorti Bernier. Bernier a dit, j'étais allé lui parler, tu sais, j'ai expliqué des choses. Puis tu sais, il est capable, autant sur le terrain, de temporiser le jeu, autant dans les médias aussi, de temporiser
des amorces,
de diffuser.
Des amorces aussi, certaines, parce que, écoute, on lui fait confiance. On sait, c'est pas un gars qui bullshit, tu sais, il a pas la cassette. C'est pas un gars qui va te sortir, qui va être malicieux non plus, mais il va dire les choses telles qu'elles le sont. Et ça désamorce certaines situations, ça permet de mieux comprendre les deux réalités. Il a toujours été un très bon pont, justement, entre nous, les médias. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on relaie le message au public. On pose les questions en général, ou du moins, on essaie que le public veut entendre. Et Patrice Bernier a toujours été très honnête et très bon là-dedans. Et c'est vrai que ça va être un gros manque à combler pour le club.
Ouais.
Un autre gars qui le fait très bien, c'est Assoun Camara. S'il continue l'année prochaine, je pense qu'il va en prendre beaucoup sur ses épaules.
Ouais.
L'arrivée de Samuel Piet aussi va faire le plus grand bien. On sait que Piet, malgré son jeune âge, il est très articulé. Il a une bonne tête sur les épaules.
Ça va en prendre d'autres,
ça va en prendre d'autres, c'est certain. Mais c'est vrai, comme tu le dis, écoute, ça va faire un gros vide. Et on a parlé du vide, par exemple, que le départ d'un gars comme Drogba, par exemple, a pu laisser dans le vestiaire. Mais là, ça en fait deux de suite. Il y a eu Drogba l'an dernier. C'est différent, complètement différent. Ouais. Mais ça reste qu'au niveau du leadership, au niveau de l'extra sportif, mais il y a un gros manque à combler là, du côté de l'Impact de Montréal. Et ça, il va falloir y voir aussi dans les ajouts qu'on va faire.
Exact.
Ça va prendre des figure importante parce que on le répète, et là on sait pas ce qui va arriver avec le coaching staff ainsi de suite, mais si on n'amène pas plus d'expérience au sein du coaching staff, mais il va falloir en amener au sein du vestiaire, ça c'est certain.
En tout cas, peut-être que Patrice va se joindre immédiatement au coaching staff de l'Impact, on le sait pas, on verra bien, mais ça va être difficile d'amener un autre gars local qui a sa crédibilité, son expérience, son désir de gagner, parce que il représentait tout ça, il a tout ça, et veut pas, les gars qui viennent de l'extérieur n'ont jamais l'attachement qu'un gars comme Patrice Bernier, un gars local. T'as dit tout à l'heure, je pense que ça va être la formation qu'on espère voir l'année prochaine. Est-ce que ça inclut des jeunes, ça? Ou est-ce qu'on va vraiment y aller avec les meilleurs qui vont nous donner la meilleure chance de gagner pour Patrice? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, c'est sûr que ça va être un peu des deux. Ça va être un peu des deux parce qu'il y a des gars aussi qui sont au bout du rouleau là, cette saison, autant physiquement que psychologiquement. Donc, peut-être que c'est mieux de leur faire sauter leur tour et de mettre des gars qui ont quelque chose à prouver. Ça ouais. va, même si c'est des jeunes, ça va sûrement te donner une meilleure chance de gagner. Je pense qu'il y en a d'autres, par exemple. J'ai beaucoup vu des gens qui se questionnaient avec raison. Je les comprenais. Pourquoi Bernardello et non pas Louis Bélanguyette, d'ailleurs? On s'était posé la question dans l'avant-match. Ouais. Mais Bernardello n'a pas... Écoute, encore une fois, il essaie de trop en faire, ainsi de suite, mais n'a pas connu un mauvais match.
Non, il a bataillé, il a gagné beaucoup.
Il s'est donné. C'est un de ceux qu'on ne peut pas l'accuser d'avoir abandonné. Et je pense que Bernardello, on a beau souhaiter ou pas qu'il revienne l'année prochaine, mais c'est un gars qui est en audition et qui aimerait sûrement, d'après ce que j'ai vu sur le terrain, revenir à Montréal l'année prochaine. Ouais. Donc,
je pense que ça va être difficile.
Ah, c'est sûr que c'est difficile. Et c'est peut-être pas ce qui est de mieux pour l'Impact de Montréal.
Non.
Mais si on le met sur le terrain dimanche, c'est juste ça mon point, je pense que c'est un gars de ceux qui va se donner. Parce que là, on est rendu là. Qui va se donner à fond? Qui va se donner à fond? Parce que c'est la question. Écoute, ça peut paraître basique, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas au cours des dernières semaines. C'est pas tout le monde qui s'est donné. C'est pas tout le monde qui a mis la main à la pâte comme il aurait dû le faire. Donc, on est en droit de se poser ces questions-là.
Juste ouvrir une parenthèse par rapport à ce que tu dis des gars qui se sont donnés. Parce qu'on a beaucoup questionné. On s'est dit, comment se fait-il que dans des matchs si importants, les gars ne semblent pas réaliser l'importance et tout cela? Moi, je pense, on les connaît, ces gars-là. Je ne pense pas que les gars s'en foutaient. Je pense pas que les gars ont abandonné, ont baissé les bras. Moi, je pense que personnellement, c'est mon opinion. Je pense qu'il y avait une accumulation de fatigue qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de gagner les batailles qu'on aurait dû gagner en fin de saison. C'est mon opinion parce que connaissant ces gars-là, dans la majorité, là, 80-90%, il n'y a pas un joueur là-dedans là, qui s'est dit « Ah, ben garde, on n'a pas de chance de gagner, on va laisser tomber. » En tout cas, je ne pense pas. Donc, très hâte au match de dimanche. Soit dit en passant, on est en onde à 16h. Donc, immédiatement après la fin du match des Alouettes, nous y serons en espérant pouvoir vous présenter en direct la cérémonie d'avant-match du capitaine Patrice Bernier. De toute façon, tout de suite après le match des Alouettes, nous y serons et on aura un après-match jusqu'à 19h dimanche soir. Bon, on a eu la chance de bien voir le Toronto FC cette semaine. On s'inquiète un peu pour cette équipe-là, pour la fin de cette saison, parce que ça semble être un club qui ne connaît pas la meilleure séquence, surtout depuis la défaite contre l'Impact 5-3. C'est plus difficile. Mais j'essaie de réfléchir à un peu plus loin. À l'année prochaine, le Toronto FC va représenter le Canada à la Ligue des champions. Est-ce que, selon toi, le Toronto FC, dans l'état où il est présentement, transpose ça à l'année prochaine, peut devenir le premier club de la MLS à gagner la MLS Cup?
Ben écoute, sur papier...
Pas la MLS Cup.
La Ligue des champions CONCACAF.
Exact.
Sur papier, ils ont ce qu'il faut. Sur papier, aujourd'hui, jour pour
ils
jour,
ils ont ce qu'il faut. Ils peuvent battre Club América, ils peuvent battre...
Écoute, l'Impact de Montréal, avec un effectif qui était moins bon que celui de cette année, là, on s'entend, là, ouais. Sur papier, s'est rendu à une demi d'être champion d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord, là, face au Club América. Ni plus ni moins. Ils sont allés accrocher un match nul de 1-1
là-bas.
Historique qu'on n'oubliera jamais au Azteca.
Et donc, il venait 1-0 aussi après la première
voilà.
demi.
Et après, bon, l'histoire, on connaît le reste de l'histoire. América a ouvert la machine.
Ouais. Patrice Bernier était sur le banc.
Patrice Bernier était sur le banc.
Ça, c'est un grand regret.
Écoute, le visage qui est rentré dans les 20 dernières minutes du match, je pense alors qu'il était déjà trop tard.
C'était 3-1.
Le visage de Patrice Bernier, moi, je l'oublierai jamais. Ça a été une des raisons pour lesquelles on en a tenu rigueur à Frank Lopez pendant longtemps. Ce traitement, c'était très symptomatique du traitement qu'il a réservé tout le long de son règne à Patrice Bernier. Au-delà du beau parcours en Ligue des champions, que bon, Frank Lopez a quand même son mérite là-dedans. Mais tout ça pour dire que oui, sur papier, je pense que Toronto FC a ce qu'il faut. Reste à voir si l'année prochaine ou lorsqu'ils joueront la Ligue des champions, ils auront le même effectif.
Parce que là, Altidore, on dit qu'il pourrait se retrouver avec le nouveau club de Los Angeles.
Et Michael Bradley peut-être aussi, parce que c'est son père qui va coacher l'équipe. C'est Bob Bradley là, le coach, là, faut pas oublier. Donc peut-être dans le temps, c'est peut-être inévitable que Michael Bradley rejoigne le paternel Bob à LA. C'est loin d'être impossible.
Au LAFC.
Au LAFC, voilà. Donc écoute, ça reste à voir. Mais oui, je pense que sur papier, ils ont ce qu'il faut. On peut le souhaiter au-delà de bon la rivalité, ainsi de suite. Si une équipe de la MLS peut gagner la Ligue des champions, c'est sûr que ça nous donnerait un petit pincement ici de ce côté-ci de la province, là, ouais. de la map canadienne. Ouais. Mais je pense que ça ferait du bien à la Ligue, ça ferait du bien au soccer canadien également. Ça serait un pas en avant pour tout le monde. Mais bon, c'est loin d'être chose faite. Et ça revient à la question, là. L'Impact, il va falloir qu'il fasse tout, encore une fois, pour se qualifier pour la Ligue des champions, parce que c'est un manque à combler à chaque année. Depuis exact. Qu'on y a participé en 2000, qu'on y a goûté
quand t'es pas là, là.
En 2015.
Il y a un vide.
Et c'est parce que tu bâtis aussi, tu gardes tes joueurs un peu, disons, motivés. Il y a un bel enjeu à aller chercher. Si tu bâtis, tu peux bâtir deux équipes. Et là, évidemment, ça prend de la profondeur.
C'est sûr.
Et ça, institutionnellement, ça fait du bien. Là. Ça fait du bien à un club de batailler sur plusieurs fronts. C'est sûr qu'on a toujours le championnat canadien, mais là, on parle de quelque chose, évidemment, de plus gros, plus compétitif. Donc, vivement le retour de l'Impact en Ligue des champions. Là, et c'est pas pour demain, malheureusement.
Un autre moment triste pour Patrice Bernier cette année, l'élimination de l'Impact en championnat canadien sur son fameux carton rouge. Là, on avait passé plusieurs minutes avec lui dans le lobby de l'hôtel tard en fin de soirée où il n'en revenait toujours pas, mais en tout cas. Dernier sujet pour l'émission d'aujourd'hui. Il y a des rumeurs. En fait, ce ne sont pas des rumeurs. Le propriétaire du Crew de Columbus songe déménager l'équipe à Austin, au Texas, s'il n'obtient pas de l'aide financière pour bâtir un nouveau stade au centre-ville. Maintenant, le vice-président de l'équipe cherche lui-même à racheter l'équipe pour la garder à Columbus, mais il semble que le club ne soit pas nécessairement à vendre. On aurait déjà acheté des terrains à Austin au cas où ça pourrait avoir lieu. Columbus, c'est une des équipes les plus anciennes. C'est une équipe originale de la MLS. Ils ont le premier stade
spécifique
au soccer.
99.
Écoute, Arcadio, on est là. C'est un des stades les plus difficiles dans lesquels
c'est
travailler.
C'est sûr, c'est normal. Ben, on l'a dit souvent, hein, c'est un stade qu'il faut le rénover. Il faudrait d'ailleurs qu'il se rapproche du centre-ville de Columbus.
C'est pas si loin que ça. Ils sont à 15
c'est
minutes.
C'est pas si pire, mais en même temps, il n'y a rien autour. T'sais, aujourd'hui, les gens, ils veulent, comme à Orlando, là, tu vas prendre une bière, tu manges, tu n'es pas obligé de prendre ton auto, tu peux prendre un petit taxi, tu peux marcher, tu vas au stade. Dans une ville comme Columbus, je peux comprendre Chicago, là, le Fire d'être à 40 minutes parce que achète-toi un terrain au centre-ville de Chicago. Puis après ça, montre-moi la facture, là, j'aurais hâte de la voir. Mais à Columbus, ça doit pas être si compliqué que ça, si difficile que ça.
Sauf que là, on ferait quoi avec celui-là? Ça deviendrait un éléphant blanc
écoute, à un moment donné, tu démolis, je sais pas, tu vends le terrain, tu fais une pour ton équipe B.
Écoute, moi, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner. Je pense qu'avec 50 millions, il serait capable de retaper ce stade-là pour qu'il soit moderne.
La prérogative d'Anthony Précourt, le propriétaire du Crew, c'est soit que j'ai un nouveau stade, soit qu'on déménage.
Ouais.
Donc, maintenant, le Mapfre Stadium, dans la discussion, on peut l'oublier, là. Là où moi, j'ai un problème, c'est que, écoute, il s'attend à avoir des fonds publics pour son nouveau stade. Et là, moi, c'est là où je me dis, la menace d'enlever l'équipe, d'essayer de se servir justement du sentiment de la passion du fan pour aller se chercher du financement public pour un nouveau stade. J'ai de la difficulté avec ça. Il y a beaucoup, la plupart des nouvelles équipes, des nouvelles franchises de la MLS, c'est des stades qui sont financés par le privé, qui a des montages financiers super intéressants, qui sont fiables pour tout le monde. Il y a moyen de faire ça. Et la méthode Précourt qu'il est en train de préconiser en ce moment, ben, je trouve que c'est la méthode facile. C'est tricher un peu, c'est demander de l'argent aux contribuables alors qu'on pourrait faire la job du côté corporatif si on prenait le temps de la faire. Il y a un groupe d'une soixantaine de personnalités d'affaires de la région de Columbus qui ont déposé une offre d'achat pour le club et qu'eux autres seraient prêts là, justement à peut-être partir les conversations pour construire un nouveau stade en attendant ou rénover le Mapfre Stadium, soit un ou l'autre en attendant. Mais comme tu l'as dit, ils ne sont pas ouverts à le vendre. Donc moi, je pense, écoute, ça fait des mois là. Ça fait des mois qu'il tracte, qu'il y a des tractations avec Austin, qui est soit dit en passant la plus grande ville aux États-Unis qui n'a pas encore
un club MLS. Ou un club professionnel.
Donc, de ce côté-là, c'est un marché là qui n'attend que ça. Mais en même temps, je trouverais ça très cruel pour une base de fans qui sont là depuis le début de la MLS.
Ouais,
c'est la première ville qui a eu officiellement une franchise MLS, qui sont là depuis les débuts, qui a une histoire. Se faire arracher leur équipe comme ça parce que le propriétaire, ben, lui, a décidé de spéculer et de s'attendre
à ce qu'on lui ouvre les culottes aussi.
Ouais, mais malheureusement, Don Garber, lui, a raté une belle occasion de soit de se taire ou soit de se garder une petite gêne. Lui, ben, il a dit qu'il comprenait un peu le propriétaire qu'avec les assistances décevantes, blablabla, fallait chercher à maximiser le produit. Ben écoute...
Mais là, t'aides pas ta situation. Ton club s'en va en série, là, puis là, tu dis, oh, le club va peut-être déménager.
C'est atroce. Moi, je pense qu'en fait, de la façon dont les choses se sont déroulées, moi, ce que ça me dit, c'est que ça va arriver. On va déménager, à moins que du côté de l'État, de l'Ohio ou de la ville de Columbus, on ouvre les coffres et on dit, OK, on va te donner ton argent, puis garde l'équipe ici. Ce qui me surprendrait, parce que quand même, l'attachement est politique, si ce n'est pas quand même une équipe phare de l'Ohio, je ne crois pas, là, faudrait voir. Là. On est allé quelques fois, je pense pas que ça fait partie des mœurs tant que ça. Mais ce que je trouve dommage par rapport à Garber, et quand il est venu ici à Montréal là, l'année dernière, on se souvient, là, il avait mis la pression sur les fans. Vous devez venir, vous devez faire ci, faire ça. J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que le fan montréalais, il est là. Il est là depuis le début. C'est pas tout le temps plein au Stade Saputo, OK? Mais il est là quand même depuis le début. Et ça, quand tu commences à traiter ton partisan, ton supporter comme un client, ben le supporter, à un moment donné, il va te traiter comme un vulgaire produit. Et lorsque tu fais pas son affaire, mais il va te jeter, il va choisir un autre qui a un meilleur rapport qualité-prix, qui lui en donne plus pour son argent, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, oui, je conçois tout l'aspect marketing, tout l'aspect business, j'ai étudié là-dedans et je trouve qu'il faut quand même compter là-dessus, mais ça prend un équilibre. Ça prend un équilibre entre les deux.
Parce que moi, quand je regarde ça, la première chose qui me vient en tête, tu sais, c'est quoi?
Ben,
est-ce que dans 5 ans, il va dire la même chose de Montréal?
Exactement.
Le stade est rendu trop petit, le stade est rendu trop vieux, ça prend un nouveau stade, sinon...
Mais ça, c'est du bluff. C'est du bluff pour que les gouvernements y ouvrent les coffres. Hmm. Écoute, on connaît trop bien ce manège-là. Ouais. On l'a vu avec les expos, Jeffrey Loria de ce monde, c'est des mercenaires, ces gens-là, malheureusement. Et ça, il faut éviter ça à tout prix. Ça prend des propriétaires. On a parfois le fan, avec raison ou à tort, chiale sur Joey Saputo, une relation amoureuse avec la direction de l'Impact, tout ça. Mais Dieu merci que l'Impact, un propriétaire comme Joey Saputo, un Montréalais, ouais, qui aime Montréal, qui, écoute, je verrais mal Joey Saputo, à moins d'un désastre financier, déménager l'Impact de Montréal, mais...
Peut-être qu'il vendrait le club.
Peut-être, mais ça, quand je vois Don Garber, disons, se mettre du côté...
Acquiescer à ça,
c'est un peu sa job, lui, il représente les propriétaires, là, je comprends, mais en même temps, comme je le dis, il aurait été une belle occasion de se taire, du moins de se garder une petite gêne, parce que là, il fait mal paraître la MLS, et peut causer beaucoup d'incertitude par rapport à des marchés qui se disent, OK, nous, ça fait 5 ans qu'on est ici, on y croit, on aime ça, mais tout quoi, dans 5 ans, si ça fait pas ton affaire, tu vas m'enlever mon équipe.
Ouais.
À un moment donné, il va falloir qu'ils sachent un peu faire la part des choses.
Non,
de ce côté-là.
Écoute, pour moi, la MLS n'est pas rendue au stade de pouvoir commencer à demander, à faire des demandes comme ça, surtout quand on a un stade qui est encore correct. Oui, tu me diras, il y a 18 ans, le stade, mais let's go, come on. Là. On est capable de rénover ça.
On a souvent chialé sur ce stade-là. On a souvent décrit des matchs derrière le but parce qu'il n'y avait pas assez de cabine radio.
Il y a du travail à faire, mais pour moi, c'est pas une situation où tu dis faut. Puis en plus, sais-tu quoi? Peut-être que les foules dans les dernières années ont pas été aussi bonnes. L'année passée, ça n'a pas été une bonne année pour le Crew de Columbus. Mais si tu revends ce stade-là, ben juste tout d'un coup, les gens vont vouloir revenir.
C'est sûr. Puis comme tu l'as dit, il n'est pas si loin que ça du centre-ville.
Exact. 15 minutes.
Il y en a des pires que ça. Mais moi, je pense que son idée est faite. J'ai vraiment l'impression, de la façon dont les choses se déroulent, que l'idée est faite et qu'en 2019, malheureusement, pour les gens de Columbus, ben on verra le Crew peut-être sous un autre nom se produire à Austin, au Texas.
Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci, Arcadio. Donc, on vous rappelle, on vous donne rendez-vous immédiatement après le match des Alouettes au 98.5 et sur le réseau Cogeco pour le match de soccer entre l'Impact de Montréal et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pour vous procurer des billets, je ne suis pas certain s'il en reste, là, impactmontréal.com.
On joue contre les Revs.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Les Patriots, ils sont...
Écoute,
Brady viendra pas.
je couvre tellement de sports ici que des fois, je me mélange entre les deux. Donc, les Revs, Habs au Stade Saputo dimanche. Donc, on est là dès approximativement 16h avec Patrick Leduc aussi. Merci à tout le monde. Merci Jean-Christophe à la mise en onde. Merci Arcadio. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. À la semaine prochaine, tout le monde.